Bien, bonsoir à chacun. Nous en sommes au chapitre général de la pratique de la vie chrétienne et en particulier de la lecture de la Bible, sujet important pour chacun de nous, important pour nos familles, important pour l'Assemblée ou l'Église, important pour les hommes que nous côtoyons. Alors, j'ai divisé le sujet en six chapitres, un préalable. Ensuite, pourquoi lire la Bible? À quoi ça sert de lire la Bible? Comment lire la Bible? Comment se l'appliquer à soi-même? Et une petite conclusion. En préalable, la Bible n'est pas un livre humain, mais la parole de Dieu. Je ne m'appesantirai pas sur ce préalable parce que c'est des choses qu'on a déjà vues lors d'une autre présentation, puis on ne va pas prendre trop de temps là-dessus, mais c'est des principes de base qui sont importants de se rappeler avant d'aller un petit peu plus loin. Alors, c'est un livre remarquable qui est écrit par une quarantaine d'auteurs. Il y a 66 livres. Et puis, ces auteurs sont de toutes sortes, de toutes origines, de tous les temps. Et puis, ils possèdent ce livre une unité, mais aussi une complexité qui font un tout équilibré et fondamental pour connaître Dieu. Jésus-Christ lui-même, il a rendu témoignage à l'inspiration de la Bible, et il se réfère constamment aux Écritures, et il reconnaît ces Écritures comme étant la vérité. La parole de Dieu est la vérité pour tous les hommes de tous les temps. Elle ne passera pas. C'est un livre unique qui se distingue de tous les autres, qui a un succès énorme. C'est le livre le plus vendu au monde, toujours. Toute la qualité de notre marche chrétienne, de chacun d'entre nous, elle dépend de la reconnaissance de l'autorité de cette parole et donc de l'inspiration de la Bible, finalement, si on la lit. Et en la lisant, c'est comme si nous entendions la voix de Dieu dans notre conscience. Elle pénètre jusqu'au fond de notre cœur, et puis elle possède aussi la puissance de transformer notre cœur, notre vie. Elle s'adresse à tous les hommes et toutes les femmes de tous les âges. La lecture de la Bible se fait personnellement, en famille, dans l'Église ou lors de diverses occasions. Et c'est important d'avoir cette pratique dès le plus jeune âge. Il y a ce verset que mon papa avait mis dans ma première Bible, que j'ai reçue. « Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que soient venus les jours mauvais. Et avant qu'arrivent les années dont tu diras, je n'y prends point de plaisir. » Donc c'est très important de connaître Dieu dès son jeune âge. Et puis, c'est aussi important parce que d'avoir une connaissance approfondie de la parole, quand on est encore jeune, c'est une excellente orientation pour toute la vie. Alors, je suis content qu'il y ait quelques jeunes ce soir parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est important déjà quand on est jeune. Et peut-être surtout quand on est jeune, parce que ça oriente le reste. Alors le deuxième chapitre, c'est pourquoi lire la Bible. Donc on sait que l'homme peut découvrir l'existence de Dieu par la nature. Il y a ce verset de Romains que nous connaissons. Ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, parmi les hommes. Dieu le leur a manifesté. Car depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, ce que l'on ne peut pas voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa divinité se discernent par le moyen de l'intelligence et par les choses qui sont faites de manière à les rendre inexcusables. Alors on peut découvrir Dieu par la nature, mais on ne connaît qu'une partie de Dieu, qu'une expression de ce qu'il a fait. Et la Bible est le seul moyen d'accéder à une connaissance personnelle de Dieu, une relation avec lui, et aussi permet d'accéder aux vérités qui concernent le salut, donc c'est vital pour toute notre vie. C'est le même esprit qui a créé la nature et ses saisons, on le voit notamment dans Job. On vit actuellement le printemps, et c'est une explosion de vie. On se rend compte que la nature démarre, en tout cas cette année, elle a démarré fort. Et ça, c'est Dieu qui l'a fait. L'univers, les beautés de la montagne, le visage d'un enfant, le miracle de l'amour, c'est ce même esprit qui a inspiré toute la Bible. Comme on ne peut pas rester plusieurs jours sans manger et sans boire, et sans manger et être en pleine forme, et sans boire aussi, eh bien on ne peut pas non plus avoir les forces spirituelles nécessaires sans se nourrir ou sans nourrir notre âme de la parole de Dieu. Alors on voit notamment dans le psaume 119, les chapitres 1 à 9 des Proverbes, on trouve plusieurs raisons de lire la parole de Dieu. Je me suis un petit peu cantonné à ces endroits-là, mais il y en a beaucoup d'autres, parce que c'est vrai qu'ils sont assez denses, et notamment dans les Proverbes. Parce que la parole, elle nous inspire, elle nous ouvre. D'abord, la compréhension de la crainte de l'Éternel, le respect, la révérence, se rendre compte de qui est Dieu, de sa grandeur, de sa puissance, de sa sainteté, du fait qu'il est en horreur le péché, du fait aussi que c'est un Dieu d'amour, de connaître Dieu dans sa totalité, eh bien ça inspire une certaine révérence et un certain respect. Parce que nous sommes mortels, et lui c'est l'Éternel, et lui c'est le Créateur, et lui il est grand au-dessus de tout. Alors, qui sommes-nous quand nous lisons la Bible ? Nous sommes une créature de Dieu qui a besoin de cette relation avec Dieu, qui a besoin de connaître Dieu et qui a besoin que Dieu agisse dans sa vie. Mais c'est dans une attitude de respect que nous pouvons le faire et prenons garde à ne pas nous placer au-dessus de la Bible, au-dessus des Écritures. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas une parole des hommes. Elle nous apporte aussi la connaissance de Dieu. C'est absolument extraordinaire de penser que ce Dieu qui m'a sauvé, je peux le connaître. Je peux entrer en relation avec lui, je peux en savoir plus sur lui, sur qui il est. Par la Bible. Je peux connaître l'amour, parce que Dieu est amour, et que l'amour est ou procède de Dieu. Donc c'est par le moyen de la Bible que je peux connaître ces choses. Je peux connaître la sagesse, l'intelligence, pas au sens des hommes, c'est pas une intelligence humaine, c'est une intelligence selon Dieu, la réflexion aussi selon Dieu, le discernement, important le discernement. Chacun désire connaître souvent la volonté de Dieu dans sa marche quotidienne. Mais plus on connaît Dieu, plus on sera capable de discerner sa volonté. Donc, pour connaître plus Dieu, il faut lire la Bible, il faut s'en imprégner. Et la méditation, c'est ces moments particuliers que l'on peut avoir avec lui en réfléchissant et en ayant un échange avec Dieu. Donc ça, ce sont juste quelques raisons de lire la parole de Dieu. On passait au chapitre 3. Quels sont les effets de la lecture de la Bible ? La lecture de la Bible nous forme. Alors on trouve ça dans Romains 10. Elle engendre, entretient et fortifie la foi. Si j'ai la foi, c'est parce que je connais ce que Dieu a fait, c'est parce que je peux lui faire confiance, c'est parce qu'il s'est révélé à moi, c'est parce que j'ai lu la Bible. La foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend par la parole de Dieu. Ce n'est pas une volonté d'avoir la foi. C'est quelque chose que Dieu nous communique par sa parole. Et à un moment donné, il y a une décision, c'est de lui faire confiance. La lecture de la Bible nous permet aussi d'engendrer cette vie de Dieu. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité. Cette nouvelle vie que nous avons vient de Dieu, mais vient du fait qu'on le connaît par sa parole. C'est par sa parole que notre cœur peut être transformé, et c'est par sa parole que nous pouvons avoir cette nouvelle vie qu'il nous donne par Jésus-Christ, parce que l'on connaît Dieu et Jésus-Christ. Cette lecture de la Bible, elle nourrit l'âme aussi en répondant à nos besoins. C'est en fait l'entretien d'une machine qui fonctionne, d'une voiture. On a besoin de ces paroles qui viennent de Dieu. C'est ce que l'on vient de chanter tout à l'heure. Elle nous enseigne aussi et nous conduit dans la vérité. Donc on a besoin, pour grandir, pour connaître, d'être enseigné. Mais on a aussi besoin d'être conduit dans la vérité. Elle nous communique aussi des certitudes. C'est bon d'avoir des certitudes ancrées sur la Bible. Ce sont des certitudes fondées sur un fondement, sur un rocher. Ce sont des certitudes qui tiennent la route. Et dans le monde actuel, on se rend bien compte dans la société que beaucoup de choses changent, beaucoup de choses sont peu stables, on ne sait pas trop en quoi se confier. On bâtit tout un système de sécurisation autour de nous, les assurances, beaucoup de choses, mais tout vient de Dieu. Et les certitudes sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est celles de Dieu, c'est pas... On s'en est rendu compte ces derniers temps, c'est pas forcément nos banques, on déplaise aux banquiers. Et ça, pour nous Suisses, c'est peut-être important de se rendre compte. La parole aussi, elle a une action assez extraordinaire, c'est de nous convaincre de péché et de corriger les fausses conceptions et attitudes. Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire à l'essence même de notre vie, au fondement de notre vie. Nous savons que nous sommes créés par Dieu, que le premier homme a été créé. Dieu a créé un corps, il a soufflé par son esprit, et il est devenu une âme vivante. Donc quand la fusion de ces trois choses crée notre vie, notre être vivant. Et c'est le fait qu'ils soient ensemble qui fait que nous vivons. Lorsque notre esprit est séparé de notre corps, nous sommes morts. Eh bien, la parole de Dieu, elle va jusque-là. Et alors, elle discerne aussi les pensées et les intentions du corps. C'est pour bien montrer que Dieu sait tout, qu'il connaît tout de nous, qu'on ne peut rien lui cacher. Et c'est vrai que quand on est chrétien, c'est agréable, parce qu'on sait qu'on peut lui parler de nos erreurs, de nos manquements. Et lui aussi, il peut nous parler. Il peut nous parler par sa parole, il peut, lorsqu'on lit un passage, nous interpeller en nous disant « Peut-être que j'ai peut-être fait quelque chose comme ça, moi aussi. Et qu'est-ce que je dois regarder dans ma vie ? Qu'est-ce que je dois dire à Dieu, confesser à Dieu ?» Donc, cette parole, elle est utile pour travailler dans nos cœurs, dans nos âmes, et pour nous faire corriger ce qu'il y a à corriger. Et c'est Dieu qui peut nous aider à le faire. Et c'est merveilleux de penser que cette parole, elle n'est pas seulement là pour nous guider, mais elle est aussi là pour nous corriger, pour nous faire revenir dans le droit chemin, pour qu'on puisse changer d'attitude aussi. Elle nous instruit aussi pour nous rendre capables de mener une vie juste à la gloire de Dieu. Il y a ce verset du psaume 119, « Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voix ? Ce sera en y prenant garde, selon ta parole. » Donc cette parole, elle a vraiment des effets. Elle peut avoir des effets si on l'écoute, si on est attentif, si on désire comprendre ce que Dieu veut pour nous. Elle peut vraiment avoir des effets concrets dans nos vies de tous les jours, et dans notre marche, dans ce que nous allons faire, dans notre attitude vis-à-vis des autres, dans notre témoignage sur cette terre. Dieu bénit celui qui s'applique fidèlement à la lecture de la Bible et sa mise en pratique. Il lui donne la paix intérieure, bonheur et réussite dans tout ce qu'il entreprend dans la dépendance de Dieu. Celui qui aura regardé de près, regardez de près. C'est pas juste lire, c'est regarder de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré. C'est pas forcément une fois, mais c'est plusieurs fois. C'est revenir sur ces choses, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres. Celui-là sera bienheureux dans son fer, c'est donc Jacques. Il y a donc là une notion d'examiner la parole de Dieu. Il y a une notion de persévérance. Il y a une notion de revenir sur les choses pour ne pas les oublier. Il y a aussi une notion de mise en pratique, un faiseur d'œuvre. On ne laisse pas cette parole s'envoler, sans y prendre garde et sans la mettre en pratique. Et celui-là sera bien heureux dans son faire. Et il y a aussi un verset du psaume 1 et 1 de Josué. Mais tout cela, si Dieu bénit celui qui s'applique fidèlement à la lecture de la parole, ça ne signifie pas une vie sans difficulté. D'ailleurs, dans les Actes, on peut lire que ce n'est que d'entrer dans le royaume de Dieu n'est pas forcément une chose facile et que cela n'engendre pas que des facilités sur la terre, mais qu'il y a des difficultés et que cela montre à quel point nous nous attendons au Seigneur, à quel point nous recherchons à surmonter avec lui les difficultés. Donc la lecture de la Bible nous rend attentifs et nous met en garde. Ça peut être pour nous un bouclier, une protection. On voit ça dans Proverbes 2, 10 et suivant. Je vais peut-être juste le lire parce que je trouve intéressant ce verset. que j'ai pas mis là dans le PowerPoint. Si la sagesse entre dans ton cœur, Proverbe 2, 10, et si la connaissance est agréable à ton âme, la réflexion te préservera, l'intelligence te protégera. Pour te sauver du mauvais chemin, et au verset 16, pour te sauver de la femme étrangère, notamment. Donc, ce sont une manière de pouvoir résister à différentes choses. Et je trouve intéressant qu'il y a deux choses, il y a le mauvais chemin et il y a la femme étrangère. Et je pense particulièrement aux jeunes par rapport à ça, parce que c'est plus tout à fait comme ça se passait à l'époque. Maintenant, sur Internet, on trouve toutes sortes de choses qui attirent les jeunes. Et on se rend compte que, comme on est tous avides de connaissances et de savoir en fait ce que ça veut dire, ce qui se passe, ben on a tendance à aller regarder ce qui se passe sur Internet. Et ça, c'est un grand danger. Parce que maintenant, il ne faut plus sortir et aller voir volontairement dans les rues malfamées, on pourrait dire en guillemets. Mais on voit ça à la maison, Internet, quand personne d'autre ne voit. Et c'est un danger. Alors, c'est pour ça que je trouve intéressant ces versets. On peut être sauvé. On peut être sauvé du mauvais chemin, sauvé de la femme étrangère, qui use de paroles flatteuses, etc. Combien de jeunes se font harponner sur Facebook ou autre? Et on peut lire dans la presse, cela provoque des suicides. Parce qu'il y a un engrenage dans lequel on n'arrive plus, duquel on n'arrive plus à s'en sortir. Et Dieu donne des solutions à ces choses-là. Dieu donne des solutions un peu plus loin, je crois que c'est au chapitre 9 des Proverbes. Non, au chapitre 6. Je trouve intéressant, au verset 3 du chapitre 6, « Mon fils, fais donc ceci et délivre-moi, puisque tu es tombé en la main de ton prochain. Va, humilie-toi et insiste auprès de ton prochain. Ne permets pas à tes yeux de dormir, ni à tes paupières de sommeiller. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur et comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Se dégager. » S'humilier. Dieu nous aide. Dieu nous donne des solutions dans sa Bible pour toutes ces choses-là. Et je trouve intéressant et je trouve remarquable que Dieu s'occupe de cela aussi pour nous aider à revenir à lui. C'est aussi une aide qui peut me relever. Ça, on voit ça, par exemple, dans les psaumes. Comment lire la Bible ? Alors, la lecture de la Bible nous permet de découvrir la vérité, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, de grandiose. Est-ce qu'on peut imaginer en tant qu'être humain de connaître la vérité? C'est une recherche que tous les hommes font, que les philosophes essayent d'approfondir. Mais cette vérité qui est de Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Et la Bible nous y conduit. Alors, cette lecture de la Bible, elle est vraiment profitable. Lorsqu'on a conscience de son caractère sacré, de sa nature de révélation infaillible de Dieu par son esprit. Et il y a un certain nombre de versets, mais je vous fais savoir, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme, car moi je l'ai reçu, je ne l'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ. Et puis aussi dans 1 Corinthiens 2, 9, mais selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, mais Dieu nous l'a révélé par son esprit. Car l'esprit sonde toutes les choses, même les choses profondes de Dieu. Et puis aussi ce verset que Jean-Philippe Fusier nous a lu la semaine passée, pour bien montrer que Dieu a averti Moïse qu'il était sur un terrain qui était une terre sainte. Quand on est dans la présence de Dieu, quand on est devant la Bible, on est devant un ouvrage, devant des écritures qui nous viennent de la part de Dieu et qui ont à ce niveau-là un caractère saint, un caractère sacré, parce qu'ils sont de Dieu et ils sont pour que l'on connaisse Dieu et ils sont là pour que bien les hommes, tous les hommes, puissent avoir cet accès à Dieu. Il faut aussi, pour qu'elle soit réellement profitable, que celui qui la lit prie, car la compréhension est donnée par Dieu. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes et je méditerai tes merveilles, sur tes merveilles. Ou dans Luc 24, le dernier, alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. Donc il y a aussi une action. Alors là, il n'y a encore pas eu la Pentecôte, mais il y a quand même une action de l'Esprit de Dieu pour que Dieu nous ouvre les Écritures, pour qu'on les comprenne. Et la prière et la lecture de la Bible sont vraiment intimement liées. On ne peut pas concevoir ou même parler de l'une sans l'autre. C'est un dialogue avec Dieu. Et c'est une espèce de cercle. Plus nous écoutons Dieu, plus nous le connaissons, plus il influence notre vie et inspire nos prières. Donc plus on connaît celui qui est au-dessus de nous, plus il a de l'influence sur nous dans ce monde. Alors c'est important de s'en rendre compte et de considérer en fait que dans notre vie, si on veut être vu comme des enfants de Dieu, si on veut que Christ soit discerné en nous, si on veut que l'amour de Dieu transparaisse au travers de nous, eh bien il faut entretenir ce cercle. Parce que vite on peut être influencé par toutes sortes de concepts humains, de concepts de société, et notamment par les médias, qui peuvent nous influencer et nous détourner. Mais il y a tellement de choses qui nous absorbent sur cette terre, qu'on a vraiment besoin d'entretenir ce contact avec Dieu. Il faut aussi qu'il s'en approche avec ouverture de cœur, sincérité et humilité. Je marcherai au large, car j'ai recherché tes préceptes. Et puis il y a ce verset de Luc 8, 15 qui est, mais celui qui est dans la bonne terre, donc le grain de blé qui est semé, ce sont eux qui, ayant entendu, ce sont ceux qui ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et portent du fruit avec patience. Donc, avoir vraiment le cœur ouvert, avoir cette sincérité, cette humilité qui convient à la réception de la parole de Dieu. Et dans cette bonne terre, dans cette parabole, elle est labourée, elle est travaillée. Donc elle nécessite ou elle a nécessité un travail intérieur qui peut avoir été fait dans la souffrance notamment, mais elle a nécessité vraiment un travail profond pour que cette semence puisse produire du fruit. Et c'est la parole de Dieu qui fait aussi ce travail, puisqu'elle nous convainc, on a vu tout à l'heure. Elle manifeste aussi le désir de mettre en pratique la parole de Dieu, ça, le lecteur. J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pèche pas contre toi. J'ai ardemment désiré tes préceptes, fais-moi vivre dans ta justice. J'ai incliné mon cœur à pratiquer tes statuts à toujours jusqu'à la fin. C'est dans le psaume 119, ça. Mais ça montre bien ces versets qu'il y a ce désir de mettre en pratique, ce désir que Dieu soit manifesté dans nos vies, ce désir que nos vies soient pour Dieu. C'est important que ce travail soit vraiment intérieur. Hein. Dans le premier verset, j'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pèche pas contre toi. Il faut vraiment que ça soit en profondeur pour que ce travail puisse se faire. Alors, il est aussi nécessaire de chasser toute préoccupation étrangère. C'est un peu comment on vient au culte le dimanche matin. Il faut se mettre, on en a parlé il y a une semaine, il faut se mettre en ordre avec Dieu. Toutes les saletés qu'on a sur nous souillées pendant la semaine, hein, tout dans notre marche, qu'on a accumulées dans notre marche, eh bien tout ce qui peut nous troubler par rapport à Dieu, tout ce qui peut nous gêner dans notre relation avec Dieu, lui confesser, mettre en ordre ces choses. C'est comme ça que Dieu peut agir dans nos vies. Et c'est important pour soi-même, mais c'est aussi important pour l'Assemblée ou l'Église. Parce que c'est tellement manifeste. Cela peut provoquer dans les Églises des situations de blocage dont on ne se rend peut-être pas forcément compte, des situations de manque de vie, parce qu'on n'a plus cette relation avec Dieu, cette relation pleine et entière, cette relation où Dieu peut regarder jusqu'au fond de mon cœur, et j'en ai conscience, mais je lui dis ce qu'il y a au fond de mon cœur, pour que je sois vraiment en adéquation avec ce qu'il voit. Et David, dans ses prières, a même été jusqu'à dire « Mais révèle-moi ce que je ne sais pas, mais il faut te cacher. J'ai besoin de le savoir. Si je veux vraiment avoir une relation avec toi, j'ai besoin de connaître s'il faut te cacher. » Et pour les confesser, pour être en ordre, pour regarder Dieu dans les yeux. Parce qu'alors nous savons aussi que, et c'est dit aussi dans la Bible, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est dans Jérémie. Si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, il nous faut bien reconnaître que nous avons tendance à interpréter la parole de Dieu selon nos propres convictions, nos propres certitudes, nos propres schémas ou nos propres aspirations. Ça peut arriver. Je crois que chacun de nous a des fois tendance à interpréter certains passages de la parole en fonction de sa vie, pour que ça l'arrange, pour que ça m'arrange. Parce que ça m'arrange de comprendre ça comme ça. Il faut être conscient qu'on est un peu tordu au fond des fois. Alors pour nous garder de ce danger, il faut avoir une certaine discipline. Alors, il y a là trois principes de base, parmi d'autres, que j'ai ressortis et qui peuvent nous aider. L'écriture seule sur la scriptura, c'est un principe de la réforme, du temps de Luther. Nous avons nos préjugés, nos traditions, nous entendons des enseignements basés sur des raisonnements humains, des constructions philosophiques, cherchons à savoir ce que Dieu dit lui-même. Vous voyez à gauche cette peinture, c'est une peinture qui représente les chrétiens de Bérée, qui recherchaient dans la parole si ce que Paul disait était juste. Et je trouve beau de voir ces Juifs de Béret qui avaient l'Ancien Testament et qui, sur la base de l'Ancien Testament, vérifiaient ce que Paul disait. Ça montre la puissance de la Bible, ça montre le fait que le Nouveau Testament est pleinement en accord avec l'Ancien Testament. Ça nous montre que cette Bible, elle est vraiment complète et qu'il faut la lire et la connaître dans son entier. Pour Jésus, la parole était la seule autorité. Elle lui a permis de résister aux tentations de Satan. Interprétons l'Écriture selon l'autorité qui émane d'elle, donc de son auteur. Pour définir une vérité biblique, il faut absolument se limiter à la parole. Et je pense que c'est particulièrement vrai de notre temps. On a tendance à définir des vérités bibliques basées sur d'autres écrits, mais une vérité biblique doit être absolument basée sur et se limiter à la parole de Dieu. Votre principe, c'est toute la parole de Dieu. J'en ai touché un mot. La vérité de Dieu, c'est l'ensemble de la Bible. Ce n'est pas qu'une partie. On ne sort pas un verset pris séparément qui nous montre une facette peut-être d'une vérité. Il faut que ça soit en accord avec tous les autres versets qui parlent de cette chose-là, de la même chose. Sinon, on risque de faire des erreurs. Pour définir une doctrine biblique, il faut prendre en considération toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis le troisième principe, c'est la parole de Dieu par la parole de Dieu. La Bible s'explique par elle-même, la Bible ne se contredit pas. Alors c'est vrai qu'il faut beaucoup d'humilité et assez de patience pour nous attendre à Dieu jusqu'à ce qu'il nous révèle notre ignorance et nous éclaire. C'est vrai qu'il y a peut-être des passages qui nous posent problème, ça arrive. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Alors, c'est vrai que c'est la parole de Dieu et que nous, on est limité. Se rappeler justement de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir conscience de son caractère sacré, de sa nature, de révélation infaillible de Dieu par son esprit. Parce qu'on est ignorant. Sans ce que Dieu nous apprend, sans cette instruction qui nous vient de Dieu, on est ignorant. On a besoin de cela pour être éclairé. Comment appliquer la lecture de la Bible à soi-même ? Le cinquième chapitre, Dieu appelle les croyants à une lecture régulière de la parole. On voit dans Josué, ceux qui ont été à l'école du dimanche avec moi doivent s'en rappeler, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Une lecture journalière est vivifiante. On se rend compte en lisant la Bible, et il y a plusieurs passages, notamment dans le psaume 119 et aussi dans les proverbes, qui montrent que cette parole de Dieu est nécessaire à notre vie et qu'elle nous donne une vitalité. C'est important de se rendre compte. C'est vivifiant, on en a vraiment besoin en tant que chrétien. Et puis les grands hommes de Dieu, ils l'ont fait. L'Éternel demandait même au roi d'Israël d'en faire une copie et de la lire tous les jours. On a vu ça, il y a le verset de Deutéronome 17, 18, 19, en dessus le dit. Il arrivera lorsque ce roi que Israël demanderait à Dieu, hein, ce n'est pas Dieu qui a voulu le donner, c'est Israël qui l'a demandé pour être la même chose que les autres peuples. Lorsqu'il sera assis sur le trône de son royaume, qu'il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi faite d'après le livre qui est devant les sacrificateurs, les Lévites. Et il l'aura auprès de lui et il y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel. Donc on voit nous l'importance de cette crainte de l'Éternel, du fait qu'on a cette révérence, ce respect pour Dieu et peur de lui déplaire, en fait. Dans ce sens, il y a crainte. Et à garder toutes les paroles de cette loi et ses statuts pour les faire. Donc là, il y a aussi la mise en pratique. Puis on se rend bien compte qu'il y a des rois qui l'ont fait, puis il y a des rois qui ne l'ont pas fait. En lisant ces livres des rois, enfin de Samuel, des rois et des chroniques, on se rend bien compte qu'il y a des rois qui ne se sont pas occupés de Dieu puis qui n'ont pas fait cela. Et il y a même à un moment donné un roi qui était très heureux, c'était Josias, de retrouver cette parole qui avait disparu. Il l'avait retrouvée et il s'en était humilié devant Dieu. Cela montre que Josias avait vraiment cette crainte de l'Éternel et ce respect pour ce livre qui venait de Dieu. Il ne l'avait certainement pas écrite puisqu'il ne l'avait pas. Mais il l'avait entendu et par cette transmission orale, il a pu se rendre compte de l'importance de ce livre. La parole de Dieu, elle est normative et elle aussi nous donne des références pour la justice, parce qu'on parle beaucoup de justice, juste jugement, on se rend compte que c'est important aussi, dans les proverbes, il en est parlé, pour la droiture et la sainteté, c'est-à-dire vivre totalement pour Dieu. Ce sont des notions que Dieu donne. Ce n'est pas des notions humaines, c'est des notions divines dans le cas particulier. La justice des hommes, il suffit de lire les journaux pour se rendre compte que c'est souvent beaucoup de choses se décident à coups de sommes d'argent, notamment aux États-Unis. C'est frappant de voir comment on tord ces choses-là dans le monde actuel. En lisant la Bible, c'est essentiel de comprendre d'abord le sens du texte, et puis alors il faut, si possible, trouver des réponses à des questions telles que « Qu'est-ce que l'auteur dit dans ce passage ?» En fonction du contexte, verset, chapitre, livre entier, cadre historique et culturel. Pourquoi l'auteur dit-il cela ? Ou encore, dans quelle situation l'auteur a-t-il rédigé ce texte ? Le prochain pas, c'est celui de l'application du texte à sa propre situation. Mais il faut se poser un certain nombre de questions, pas mettre la parole en doute, mais se poser un certain nombre de questions, savoir pourquoi Dieu a écrit ces choses comme ça. Puis aussi des points à observer pour ma méditation personnelle. Qu'est-ce que ce texte enseigne concernant Dieu le Père, ou la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus, ou le Saint-Esprit? Y a-t-il un bon exemple à suivre avec l'aide de Dieu? Y a-t-il un mauvais exemple à éviter? Y a-t-il un ordre auquel je puisse obéir? Y a-t-il un avertissement auquel je dois faire attention? Y a-t-il une promesse que je puisse croire et proclamer? Y a-t-il un conseil pour la journée, pour aujourd'hui? Après la lecture de ce passage, est-ce que j'ai quelque chose qui me porte à la louange? Est-ce que j'ai quelque chose à dire à Dieu, à lui confesser? Est-ce que dans ma prière, ça va m'inspirer une demande que Dieu aura créée par son esprit dans mon cœur? Oui, j'ai déjà été un petit peu loin. Bref. La lecture de la Bible, elle est profitable et demande de la réflexion. Il ne faut pas craindre de fournir un effort personnel. La mémorisation de versets bibliques aide à connaître la Bible et à garder la parole de Dieu dans son cœur. Alors là, je parle surtout pour vous, pas trop pour moi, parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des versets. Et peut-être moi, un des moyens pour lesquels je me rappelle mieux des versets, c'est le chant. Quand on a une mélodie avec des paroles, on s'en rappelle plus facilement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces chants avec des versets qui sont importants. Alors j'en arrive à la conclusion avec quelques conseils pratiques. Alors là, je suis un peu bédé. Alors, ça ressort un petit peu de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Lire la Bible quotidiennement. La lire toute la Bible en entier. D'abord le Nouveau Testament, peut-être, si on en est dans les débuts. Et puis l'Ancien. Et puis les deux en parallèle, éventuellement, pour pas que ça soit trop rébarbatif aussi. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a des passages qui sont peut-être plus durs que d'autres. Et plutôt que de compter les moutons avant de s'endormir, on peut lire le début des Chroniques. C'est aussi assez soporifique. Parce qu'il y a des longues énumérations. Et puis si on ne fait pas vraiment attention, eh ben, on a tendance à s'endormir. Se fixer des objectifs. Alors, si je regarde ma Bible, la Bible d'Arby, là, j'ai 866 pages. Alors, si je veux la lire en un an, je dois lire 2,5 pages par jour, soit une petite demi-heure. Alors ça, je dis surtout ça aux jeunes, parce que c'est très concret. Je peux demander à Dieu quel objectif il a pour moi. On peut peut-être jouer un peu à Jacob, et puis on négocie, je te donne ce temps, et puis, enfin bref, j'ai besoin aussi de temps pour moi, pour certaines choses. Enfin, j'entends, c'est quelque chose qui se passe entre Dieu et moi. Et puis, si j'ai commencé à 20 ans, et que je lis, et que j'arrive à 30 ans, que j'ai lu la Bible 10 fois, ben, j'aurai une bonne connaissance de la parole de Dieu. Je serai assez solide dans tout ce que j'ai lu. Parce que j'aurai répété 10 fois les mêmes lectures, donc ça m'aide à me souvenir de ce que Dieu a voulu dire. Et puis chaque fois, comme chaque fois qu'on la lit, on la lit différemment, on comprend les choses différemment, ça me fait avancer, ça me fait progresser. Je connais toujours un petit peu mieux Dieu dans cette histoire. Et puis, il faut que je me rende compte que si à 30 ans, je connais bien ma Bible, si à 30 ans, je suis solide par rapport à mes convictions qui viennent de Dieu, eh bien, je peux être utile. Utile dans mon église, dans ma famille. Alors, si je ne me sens pas capable de lire la Bible en une année, ben, il faut, ou bien de me donner moi-même une structure, une organisation, un plan de lecture, il existe des plans, on trouve des agendas bibliques, notamment sur les sites de la Maison de la Bible ou autres. Il y a beaucoup de sites actuellement où il y a des propositions de lecture de la Bible. Il y a même des plans bibliques, de lecture biblique qui sont chronologiques par rapport au fait, c'est-à-dire qu'ils nous font peut-être sauter des rois dans les prophètes, etc., pour qu'on puisse voir en suivant les choses chronologiquement comme elles se sont passées. Ça existe. Alors maintenant, est-ce que je veux grandir spirituellement? Est-ce que j'ai hâte de connaître celui qui m'a sauvé encore mieux? Est-ce que j'ai envie de le faire connaître autour de moi? Alors il faut prendre du temps. C'est du temps bien investi pour le royaume de Dieu. Mais je voulais faire sortir quand même que l'Église a besoin de serviteurs et de servantes de Dieu fondés solidement dans la parole. C'est important. C'est important que la Bible soit enseignée et lue dans nos assemblées. C'est important parce que c'est vraiment un fondement solide. Et puis c'est une manière qui nous aide ensemble à partager ce que Dieu nous donne et à partager ses convictions qu'il nous donne.